J'aimerais parler de la question se marier et durer, et surtout de la question de durée, de comment faire pour durer, accompagner. Et à travers cette retraite de SUSL qui a donné lieu à un livre qui est ici et qui est vraiment pour ceux qui sont en discernement en amont des fiançailles. Et ensuite, je me suis formé à être thérapeute de couple. Donc, j'ai 4 ans de formation comme thérapeute de couple, certifié avec le bon tampon, etc., dans un institut complètement laïque. Je me suis formé aussi aux sciences humaines, et je trouve ça intéressant, comme la communication non violente. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Vous avez entendu peut-être parler de l'énéagramme aussi, qui est c'est de la caractérologie. Bon, moi, je me forme maintenant à la PNL, par exemple, programmation neurolinguistique, c'est lié aux neurosciences, etc. Bon, tout en gardant ma foi catholique, etc., évidemment, moi, ma consécration. Mais je vois que déjà que nous sachions ce qui se dit à l'extérieur de l'Église, parce que tout ça dont je vous parle, ce n'est pas des institutions d'Église ou des lieux de formation d'Église, c'est à l'extérieur de l'Église. Et d'être attentif à ça. Et puis ça me donne aussi des clés pour accompagner les couples. En tout cas, il y a des choses que je prends et qui sont vraiment intéressantes. D'autres ont réfléchi à la relation avant nous, hein, et d'autres réfléchissent actuellement à la relation. Et donc l'idée, c'était à travers cette retraite SUSL, et puis c'est vraiment d'endiguer, c'est, oui, en tout cas, oui, d'avoir un lieu au moins pour détecter de possibles difficultés dans le couple, éviter les séparations, en tout cas éviter le mariage. Éviter le mariage, surtout le mariage à l'Église. Il y a un effet cliqué dans le mariage à l'Église qui fait que ben voilà, c'est un mariage qui est sacramentel, qui est pour la vie, etc. Et c'est comme ça que j'entends le mariage, je trouve ça très bien. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui répond au cœur aussi de beaucoup. Hein. Je pense que, ne perdons pas de vue, hein, même si la société ne véhicule plus des valeurs chrétiennes, beaucoup veulent aussi construire un couple durable et fidèle, si vous voulez. Je pense que c'est important, ça, pour les personnes. Et nous, alors, ça fait partie de notre ADN, on a un savoir-faire dans l'accompagnement. Par exemple, moi, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas de préparation mariage civil, par exemple. Bon, et beaucoup de choses que je peux dire à des fiancés, ben, beaucoup peuvent l'entendre, parce que c'est plutôt une préparation à la vie de couple que je fais qu'à la cérémonie en elle-même. Donc ça a donné lieu à un livre « Se marier et durer », qui sont plutôt, donc c'est pour la préparation au mariage et puis un peu les premières années de vie matrimoniale. Donc il y a saison 1, saison 2 et saison 3, « Traverser sa colère ». Alors bon, c'est-à-dire que comment ensuite, quand on rentre un peu dans le dur, comment est-ce qu'on va faire pour éventuellement voilà, continuer et durer dans la vie matrimoniale. Voilà. Donc c'est, bon an, mal an, j'accompagne vers le mariage à peu près une trentaine de couples par an et toujours dans ce format-là, en one-to-one. Et ça va faire 20 ans maintenant que je fais ça. Et puis aussi la question des retraites de discernement, donc SUSL. On sent qu'il y a une vraie demande, quoi, justement, parce qu'il y a tellement d'insécurité aussi pour pouvoir être encouragé. Voilà un peu ce que vous avez en face de vous. Et donc, on m'a demandé de parler de la question de ce livre-là, de se marier dur, et c'est pas tant dans la préparation au mariage, je pense que vous êtes à l'étape d'après, mais c'est plutôt la question de durée. Je trouve la question de durée, c'est comment au fond traverser l'épreuve et durer. Déjà, peut-être même en amont, reprendre conscience, déjà, pourquoi se marier ? Pour beaucoup de nos contemporains, même le mariage civil n'est pas du tout une évidence. C'est pas du tout clair. Je veux dire, pourquoi se marier, etc. Alors, se marier à l'Église, c'est encore moins clair. Ou en tout cas, pas forcément pour les bonnes raisons. Et je trouve ça intéressant de prendre conscience, en tout cas, dans notre vision, nous, comme catholiques, que l'on a du mariage. Je trouve que c'est important de prendre conscience que dans le oui que vous vous êtes donné l'un à l'autre, au moment du mariage, d'autres sont embarqués. Vous voyez, je pense qu'il y a cette conscience de faire partie d'un corps. Il y a cette conscience d'être vraiment... Et ça, je pense que C'est quelque chose qui est important. Bien sûr, alors vous avez les enfants, voire les petits-enfants, pour certains d'entre vous, je vois quelques cheveux blancs dans l'assemblée, etc., en plus des miens. Mais du coup, voilà, des petits-enfants, c'est là où on se dit, on prend conscience que dans le oui, vous reprenez conscience, mais même si vous le savez, dans votre oui, de même dans la oui, le oui d'un prêtre, etc., beaucoup sont embarqués. Hein, certes, c'est une démarche absolument personnelle, mais ce n'est pas une démarche solitaire, le mariage. Et le fait de se marier, moi je pose la question justement aux jeunes, mais pourquoi est-ce que vous voulez vous marier, etc. Mais de prendre conscience qu'on veut célébrer. Et la grâce du mariage à l'Église, c'est une célébration. Une célébration, c'est-à-dire qu'on veut dire à la communauté chrétienne, mais aussi de façon plus large, aux amis, peut-être même aux collègues avec qui nous travaillons, etc. Nous voulons dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que nous avons fait comme choix de vie. Et le fait de prononcer une parole, je trouve ça assez important, c'est que tout commence par une parole. Tout commence, et Dieu dit, tout commence par une parole. Hein, et on a peut-être perdu, on est trop dans l'image et moins dans la parole, mais perdu la dimension de la force d'une parole. Le sacrement, c'est une parole. Et tous les sacrements sont des paroles. Une parole qu'un geste accompagne, hein, pour l'Eucharistie, pour le baptême, etc., etc. Mais dans le sacrement de mariage, c'est le seul sacrement qu'on reçoit à deux. Tous les autres sont des sacrements, personnel, individuel, voilà, baptême, confession, confirmation, etc. D'où le challenge. D'où le challenge de quoi? De comment continuer à dire je tout en disant nous. C'est-à-dire comment faire que le couple soit pas l'absorption des individualités, la fusion des individualités, mais que le couple conserve à la fois la dimension personnelle et en même temps un destin commun. Oui, je pense que c'est notre challenge aussi comme communauté religieuse. Certains d'entre vous connaissent bien l'abbaye, etc. Comment on est une trentaine de frères, on ne s'est pas choisi. Alors, à la différence de vous, vous êtes choisi, mais nous, on ne s'est pas choisi. Et peut-être on ne se serait surtout pas choisi, peut-être, du reste, mais bon. Et en même temps, des caractères très différents, très. C'est impressionnant notre communauté de ce point de vue-là. Et on se dit, mais comment c'est la grâce de Dieu? C'est vraiment la grâce de Dieu qui nous fait tenir ensemble. Mais à la fois, donc, l'affirmation des individualités, mais comment, et en même temps, l'affirmation d'une communauté, d'une communion. Hein, et donc, pour ça qu'on a une règle de vie, c'est pour ça que, bon, parce que c'est pas intuitif, la vie religieuse, elle est très particulière par rapport au mariage qui a une dimension naturelle. Je veux dire, la vie de couple, c'est déjà dans la création, hommes et femmes, il les créa, donc je trouve ça intéressant de reprendre conscience que au fond et ça fait partie de la durée aussi peut-être au tout début un peu tout femme etc. On fait tout ensemble on veut tout on n'ose pas se contredire. Moi, dans les couples que j'accompagne je dis est-ce que vous disputez? C'est important de se disputer aussi. Alors, faut pas que se disputer mais c'est important de ne pas être d'accord. Est-ce qu'il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord? Parce que vous voyez, il y a comme quelque chose qui traîne dans notre société que aimer, c'est forcément la fusion, c'est forcément dire oui à tout, c'est surtout pas de friction. Non, pas du tout. C'est pas ça, nous n'avons pas ce langage-là. C'est pas notre manière de voir comme disciple de Jésus, etc. Nous, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. On pense que aimer, premièrement, c'est pas intuitif, c'est pas spontané. Il n'y a qu'à que chacun se regarde. Par le temps de carême, ça a été un temps propice pour ça. C'est pas intuitif, c'est pas spontané, parce que forcément, et aimer, sinon pourquoi Jésus en aurait fait un commandement? Si c'était spontané. C'est pas spontané. Aimer, c'est la volonté qui se met en acte. On veut le bien de l'autre, et réciproquement. C'est pas une relation d'aide, comme. Vous pouvez avoir vos enfants, vos petits-enfants, ou certains sont dans l'enseignement, ou dans le soin, dans la santé, etc., etc. Bon, là, vous êtes dans la relation d'aide. Dans la vie matrimoniale, vous êtes un amour qui est volontaire, que vous dites oui, et vous vous posez la question le jour de vos noces, voulez-vous prendre vos maris pour femmes, etc. Et vous avez répondu oui, je le veux. Vous n'avez pas dit oui, je l'aime. Ben, on ne vous a pas posé la question si vous l'aimiez. On vous a demandé ce que vous le voulez. Parce qu'aimer, c'est vouloir, et vouloir, c'est aimer. Vous voyez, donc je pense que déjà de partir comme ça, de dire, tiens, si c'est pas intuitif, c'est pas spontané, c'est le fruit d'une volonté en mouvement, ça donne une espérance. Ça donne une espérance, parce que justement, ce n'est pas une sorte d'amour transi, fusionnel, etc., où on oublierait qui l'on est, où on se fond dans l'autre, où, voilà, marié au premier regard. Et divorcé au deuxième, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça veut rien dire, marié au premier regard, ça. Moi, je ne crois pas du tout à l'homme, la femme de ma vie. Je ne crois pas du tout à ça. Je n'y crois absolument pas. Il y a des styles d'hommes, il y a des styles de femmes qui nous correspondent. C'est évident. C'est évident que, depuis que vous êtes marié, bah, il y a des personnes qui ont attiré votre attention. C'est normal. Simplement, vous avez fait un choix. Vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. Et je pense que la question de durée, c'est un point dont je parle dans le livre, etc., la question de la fidélité. La fidélité qui, je le rappelle, est aussi dans le code civil, mais bon nombre de séparations viennent d'adultères. Un grand nombre. Donc moi, la première chose que je questionne, c'est la question de la fidélité. Bon, j'arrête des préparations au mariage quand à cette étape-là de préparation au mariage, il y a déjà des infidélités. Alors pour moi, ça c'est fini. C'est stop. Et aussi, j'arrête aussi dans une autre circonstance quand il y a des violences ou psychologiques ou physiques. Et j'ai connu et les deux dans les couples que j'ai accompagnés. Donc, je pense que ça, c'est pour moi, ça c'est stop. On arrête tout de suite parce que là, on n'est plus dans le respect. Alors, en tout cas, moi, je ne sais pas accompagner. Je ne suis pas la bonne personne pour accompagner des couples qui, dès leur fiançailles, donnent un coup de canif au contrat. Pour moi, ça c'est bon. Là, bon, c'est pas dans mon logiciel, etc. Bon, trouver d'autres personnes peut-être, mais là, en tout cas, moi, je vous déconseille. Et vous avez d'autres choses à régler avant d'aller vers le mariage. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des personnes, forcément, qui attirent notre attention, qui attirent notre regard, qui nous séduisent. D'où l'importance aussi de rester séduisant l'un envers l'autre dans le couple. Je trouve que c'est voilà, d'être attentif de l'attention, de la communion, c'est être attentif à l'autre. Voilà, de surprises, de cadeaux, les fameux langages de l'amour, vous savez, vous connaissez ça par cœur. Donc, voilà, donc, je trouve ça important d'être séduisant, de garder. Mais vous serez aussi séduit par d'autres personnes. C'est normal, parce qu'il n'y a pas l'homme, la femme de ma vie. Hein, donc, mais dire oui à l'un, c'est dire potentiellement lui, oui, non à 3, 4 milliards de personnes avec qui j'aurais pu éventuellement fonder un couple. Donc, c'est un choix. Et nous, voilà, c'est vraiment un choix. Hein, donc, parce qu'on rentre dans une logique de don. C'est ça la vie matrimoniale, c'est ça la vie chrétienne, c'est rentrer dans une logique de don. C'est une logique de don qui fait que je suis à l'image, à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu est aussi don. Hein, don de lui-même. Dieu nous a aimés le premier. Hein, ça, on le sait très bien. Hein, et il nous a envoyé le son Saint-Esprit et ses dons pour pouvoir suivre les paroles du Seigneur et être disciples. Donc, je trouve ça intéressant de dire, tiens, voilà, on rentre dans une logique de don, etc. Mais il y aura aussi, si ce n'est déjà fait, un combat intérieur. Envie de prendre sa valise, claquer la porte et aller voir ailleurs. 40% de ceux qui se marient l'ont. Donc, je vois pourquoi dans votre cœur, ça ne serait pas passé. Hein, je vous parlais d'un petit livre là, sur la colère que j'ai fait, etc. Il y a de la colère parfois, c'est entre nous. Ben, voilà, bon. Mais le fait de rentrer dans une fidélité l'un envers l'autre, c'est quelque part. Exprimer aussi la fidélité du Seigneur avec nous. Pourquoi il n'y a pas de divorce dans le mariage à l'Église? Parce que c'est un mariage qui est de toujours à toujours, parce que vous êtes, en recevant ce sacrement-là, vous êtes expression de, vous êtes les signes vivants de l'alliance que Dieu a scellée avec son peuple, qui est une alliance de toujours à toujours. Vous voyez, c'est notre manière de voir. D'autres ont d'autres manières de voir, bon, très bien. Mais en tout cas, si on se marie à l'Église, on pense ça. Parce que le sacrement, se dire signe, vous êtes signe hein, de cette alliance. Hein, dans l'altérité, vous êtes différent, et ça c'est important aussi de prendre conscience de ces différents. L'autre est différent de vous, ça me paraît capital. J'étais dimanche à Beauvais, donc avec les équipes Notre-Dame, et un monsieur qui intervient après mon topo me dit, monsieur une soixantaine d'années, je pense peut-être un peu plus âgé, me dit, ah, pour moi, il y a eu un moment très important dans ma vie matrimoniale, je me suis rendu compte que ma femme, ce ne serait jamais comme moi. Mais monsieur, l'altérité, vous avez parlé un peu de l'altérité, je dis, ça a été pour moi, parce qu'au début, je pensais que s'aimer, c'est être pareil. Pas du tout. Mais oui, c'est ce qui est véhiculé, hein, cet homme-là, et il disait avec grande simplicité, etc. C'est vraiment l'homme de 70 ans à peu près, donc et ma femme sera, et moi je ne serai jamais comme, et je ne suis pas appelé à l'être. Je ne suis pas appelé à l'être, comme l'autre. Donc c'est comment challenger l'altérité, parce que c'est ça ce qu'on appelle l'altérité, c'est l'autre qui est autre que moi. Et c'est intéressant, moi, quand j'ai fait mes études de théologie, on étudie la Trinité, vous savez, au séminaire, etc. Et je trouvais intéressant de voir que quand on approche avec grande humilité de ce mystère de la Trinité, il y a à la fois un mystère de communion, un seul Dieu, et à la fois une diversité des personnes, Père, Fils et Esprit Saint. La communion dans la diversité, c'est-à-dire que la distinction des personnes, la différence des personnes, le Père est beaucoup plus différent du Fils et le Fils du Père que n'importe quelle personne humaine entre elles, et beaucoup plus en communion que n'importe quelle personne humaine entre elles. Vous voyez, donc il n'y a pas d'opposition entre différent et communion. Or, parfois, on voit la différence comme une menace. Il est différent, il est, attention, il me menace, hein, que ce soit au plan personnel, familial, etc., etc., amical, social, voilà. Il est différent, il me menace. Or, quand on contemple la Trinité, eh ben, on voit justement au cœur même de la Trinité, il y a cette, on peut dire, une altérité en Dieu, je ne sais pas si on peut dire, voilà, Père, Fils, Esprit Saint, c'est les personnes, comme c'est des personnes spirituelles, c'est des personnes divines, bien, ces personnes divines, elles sont distinctes l'une de l'autre, beaucoup plus que n'importe quelle personne humaine, et évidemment, un seul Dieu, beaucoup plus en communion que n'importe quelle personne humaine. Donc, je trouve intéressant de dire que, quelque part, la différence est condition de la communion. Qu'on contemple comme ça ce mystère de la Trinité, avec ce qu'on peut en percevoir, là, sa lumière, etc. En tout cas, pour moi, c'est important, et je vois dans ma communauté religieuse, c'est très fort, ça. Les différences entre frères, etc., c'est très, très puissant. Donc, et à la fois, et c'est pour ça que dans notre règle de vie, je trouve qu'il y a vraiment un passage très beau qui dit « Pour rapprocher les hommes les uns des autres, nous choisissons de vivre en communauté. » Je trouve c'est qu'il y a la communauté religieuse, et puis avec une communauté de vie, hein, c'est un peu différent d'une communauté paroissiale, ce n'est pas une communauté de vie. Mais là, nous, on a une communauté de vie, on est sous le même toit, hein, pour rapprocher les hommes les uns des autres, nous choisissons de vivre en communauté. Et cette fraternité qui nous unit, bon, avec ses épreuves, avec ses difficultés, comme tout un chacun, c'est pas. Voilà. C'est important aussi de dire que forcément, il y aura des. La différence, à un moment donné, sera une difficulté pour moi. Et c'est important, je vous dis ça aussi, de renoncer au paradis terrestre. Moi, j'étudie aussi, par ailleurs, en plus de ces questions de couple, j'étudie beaucoup le judaïsme. Et dans le judaïsme, en fait, il y a le Messie, c'est celui qui vient apporter le paradis terrestre. Et du coup, il nous interpelle, mais votre Jésus, il est sympathique, mais regardez, depuis 2000 ans, ça va plutôt pas vraiment bien. Je veux dire, bon, les hommes s'entretuent, etc., etc. Bon, c'est vrai que c'est un peu imparable, on ne peut pas trop leur dire grand-chose, quoi. Bon, mais sinon, si ce n'est qu'on ne pense pas du tout de la valeur du Messie comme eux la pensent. Pour nous, c'est ciel nouveau et la terre nouvelle. C'est pas un paradis terrestre qui vient, que pas un Messie politique. Et donc, je trouve ça intéressant de renoncer au paradis terrestre, c'est dans le couple, c'est-à-dire de renoncer à ce que l'autre vienne me combler. Il y a toujours une part de solitude, que ce soit dans une communauté religieuse comme la mienne et comme d'autres, et que ce soit dans un couple, il y a aussi une part de solitude. Et ce n'est pas parce qu'il y a de la solitude que c'est mauvais, que c'est. Non, je pense que c'est cette part de solitude, elle fait partie de tout être humain. Et les crises viennent du fait qu'on veut que l'autre comble ma solitude. Là, dans le mur direct. Dans le mur direct, parce que c'est pas du tout ça, le mémé. Et y a une forme de béance en nous qui ne trouvera, je veux dire, son équivalent, qui ne trouvera sa complétude que dans le face-à-face avec Dieu. Notre cœur, Seigneur, est fait pour toi et nous n'avons pas de repos sans toi. C'est intéressant, par exemple, dans les noces de Cana. Les noces de Cana, que vous entendez souvent pour les noces de mariage, etc. Qu'est-ce qu'il y a au cœur des noces de Cana? Il y a un manque. Ils n'ont plus de vin. Et je trouve que ça vient dire à tous les fiancés qui, dans leur inconscient, qui choisissent ce texte, mais en fait, ce que vous dites, c'est que l'autre ne vous comblera jamais. L'autre ne sera jamais le premier dans votre vie. Si c'est le Seigneur qui est premier. Et ça, c'est très libérateur. Les enfants, ce n'est pas les premiers dans votre vie. C'est très libérateur. Pour eux et pour vous. De mettre, d'avoir, et la grâce que nous avons dans la foi, de mettre la transcendance au cœur même de notre vie, ça libère. Ça fait que l'autre n'a pas à être Dieu. L'autre n'a pas à combler comme Dieu comble. Parce que forcément, à un moment donné, il va se rentrer en crise. Parce qu'on attend de l'autre ce que seul Dieu peut donner. Vous voyez, je pense que c'est important justement de se mettre d'accord sur cette question de l'amour, sur cette question du lien matrimonial qui est un lien humble, aussi modeste. Je veux dire, voilà, c'est une vie ensemble, d'un fait d'amitié, d'affection, de tendresse, etc., de tension, de voilà. Mais je ne mets pas l'autre à la place de Dieu, ni mes enfants. Pour ça, moi, je suis toujours un peu perplexe, vous voyez. Bon, il y a l'autre couple, là, j'accompagne, qui ont des enfants, bon, alors qu'en paroisse, c'est pratiquement la norme. Mais je me dis, tiens, je leur ai dit, faites attention. Vous êtes d'abord un couple matrimonial avant d'être couple parental. Et je lui dis, faites attention, vous venez d'avoir un petit garçon archi mignon, etc. Je lui dis, bon, ok, mais c'est d'abord le oui que vous vous donnez, qui est la source aussi de la communion, de la fécondité, qui est la source de. Voilà. En tout cas, pensez-vous d'abord comme couple avant de vous penser comme parents. Et ça, c'est un challenge. C'est-à-dire que moi, je vous interroge aussi, mes amis, qu'est-ce que vous mettez en place pour votre vie de couple? Qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'on puisse dire à l'extérieur, bah oui, en fait, pour eux, c'est une priorité. Vous voyez que, moi, ma religion, c'est la religion de l'agenda. Donnez-moi votre agenda, les amis. Hop, je regarderai. Hop. Où est-ce qu'il y a, attends, rien que pour vous deux, ou rien que pour la famille, ou rien que pour soi seul. C'est aussi, c'est pas un égoïsme. Parce qu'on culpabilise, ah ben non, ma famille, mon machin, etc. Mais non. De se ressourcer, de prendre un temps, je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui viennent à l'abbaye pour les haltes des dames, etc. Bon, mais c'est pas, c'est un temps pour votre famille, c'est un temps pour votre communauté aussi, c'est un temps pour l'autre que de prendre du temps seul avec le Seigneur. Oui, ce qui s'oppose aussi, ce qui fragilise le lien matrimonial, c'est aussi quelque part, cet activisme. Cet activisme, faire dans 24 heures plus que 24 heures, et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dans notre culture, malheureusement, c'est dans notre culture, et cet activisme, moi je vous interroge, où est la dimension contemplative dans votre vie? Il n'y a pas que les moines qui sont contemplatifs. On est tous appelés à contempler Dieu dans le face-à-face, c'est notre foi. Hein, je crois en la résurrection de la chair, etc., je crois en la vie éternelle, voilà. Et ce qui fait que cette vie éternelle, plus concrètement, ben, du coup, elle prend chair aussi dans les temps de pause qu'on s'octroie, etc. Bon, de solitude, de contemplation, de méditation, de prière, de réflexion, etc. On choisit ces temps. Et j'aime bien cette phrase de Bernanos, c'est dans son livre 1946, donc ça ne date pas d'hier. Cette phrase de Bernanos qui dit. La société moderne est un complot contre toute forme de vie intérieure. Hein? Il disait ça, la société moderne est un complot contre toute forme de vie intérieure. Ces forces centrifuges, vous voyez, ces forces qui vous emmènent loin de vous-même, loin aussi du cœur à cœur avec le Seigneur et du cœur à cœur avec l'autre. Elles sont en nous, ces forces-là. Et pour nous aussi, religieux, on n'est pas mieux que les autres. On est comme les copains, je veux dire. Et on a aussi ces forces-là qui nous. Puis avec l'Internet, que dirait Bernanos aujourd'hui avec. Voilà, je trouve que c'est important de dire que le fait de durer, ça a beaucoup à voir aussi avec la vie contemplative. Avec la dimension du repos, par exemple. dimension du repos. Le repos qui n'est pas juste une absence de travail, mais le repos, c'est un lieu où on refait ses forces, un lieu où on se ressource, un lieu... Où est-ce que vous vous ressourcez personnellement, comme couple, comme famille? Où est-ce que vous reprenez des forces? Oui, je vous interpelle là-dessus, parce que il y a une sorte de maladie du don qui serait dans un don H24, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à des burn-out, etc. Bon, mais parce qu'on n'a pas pris assez de temps pour le repos, pour refaire notre âme. Oui, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on tient dans la durée. On se donne les moyens d'eux. Mais si on ne donne pas les moyens d'eux, on est comme les copains. Hein. On ne peut pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de cette eau. Hein. C'est évident. Voilà, donc je trouve ça, je voulais parler de la question de la fidélité, parce que je pense que ça fait partie aussi de durer dans la fidélité. Donc on peut être attiré aussi par d'autres personnes, mais forcément il y a des styles d'hommes, de femmes qui nous attirent, c'est logique. Hein. Mais je trouve qu'aussi... Moi, je crois beaucoup à la fidélité. Moi, je distingue deux choses. Il y a la fidélité à l'intérieur du couple, la fidélité à l'extérieur du couple. Du couple vers l'intérieur, fidélité, j'appelle ad intra, c'est-à-dire que vraiment, c'est rentrer dans une logique de don mutuel. C'est prendre soin d'eux. C'est une attention. Hein, c'est une attention. C'est une. Voilà, c'est une attention dans la durée, dans la. Voilà, et même quand on a fait grosso modo le tour de l'autre, parce que c'est vrai qu'au bout de 15-20 ans de mariage, voire plus, bah, on a quand même grosso modo fait le tour de l'autre, c'est rare que l'autre nous surprenne. Bon, donc, bah oui, c'est normal. Donc, mais du coup, comment rester dans la durée, continuer dans la durée? Je trouve que c'est à travers cette fidélité à l'intérieur du couple, hein, et ce manque de... C'est vrai, si je n'ai d'appréciation, d'encouragement, de paroles valorisantes que avec un collègue ou une collègue, etc., et j'ai rien dans mon couple, bah évidemment, c'est la porte ouverte à l'infidélité de l'extérieur du couple, pour le coup. Hein. Donc, mais je pense que c'est important d'être attentif à cette question. Au début, vous voyez, moi, je ne traitais pas cette question-là, préparation, mariage, puis après, commencer un peu à... C'est une vraie question, la fidélité. C'est une vraie question. Et les infidélités, évidemment, c'est très toxique. C'est très... Je me rappelle comme ça, un couple, il aurait pu tout à fait être là ce soir. Donc, quatre enfants, au scout, enfants au scout, des sessions des familles, des retraites, voilà, des prières le soir dans la famille, etc. Bon, tout. L'homme, un an et demi, de vie parallèle. Pendant que madame était en vacances avec les enfants, faisant des galipettes avec sa collègue sur le lit matrimonial. Et, à un moment donné, ça s'est passé comme ça, parce qu'en plus, c'est un couple, mais super. Et lui, c'est un garçon super. Vraiment. Je les ai vus il n'y a pas très longtemps, ils ont tenu le choc, et bon, il faut quand même s'en sortir. Et lui, un jour, reçoit une lettre de cette fameuse collègue, voilà, qui au travail, et il rentrait comme ça de week-end, etc. Et il ouvre la boîte aux lettres. Bon, ah, tiens, chérie, il y a une lettre de ton travail. Il dit, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Et là, il me dit, mais tout mon monde s'est effondré. Pas nous. Avec ce qu'on transmet aux enfants, avec ce qu'on vit dans la paroisse, avec ce qu'on vit comme couple, avec la préparation au mariage, etc. Pas nous. Mais c'est normal, au début, un truc comme ça, il y a une dimension de déni, si vous voulez. C'est logique, c'est complètement logique. C'est comme quand vous avez une épreuve, non, c'est pas possible, personne n'est pas mort, etc. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant, lui, un garçon, ils s'en sont sortis, ils sont tirés par le haut, vraiment, ils sont fait aider, parce qu'il faut se faire aider dans ces cas-là. Vraiment pas un professionnel, quelqu'un qui aide. Et il me dit... Oui, on avait la prière en famille le soir, oui, on avait la messe le dimanche, etc. Mais j'avais perdu le contact personnel avec le Seigneur. J'avais perdu le contact personnel avec le Seigneur. Et je trouve que quand on a perdu justement cette dimension contemplative, il y a une forme d'impunité qui se crée, pas vu, pas pris. Et je trouve que voilà, dans la question de la fidélité, moi ça m'a beaucoup éclairé. Et je trouve que c'est un couple que j'ai rencontré il y a 15 jours de ça, voilà, j'ai revu après plusieurs années, etc. Vraiment un couple super. Et ils s'en sont sortis, ils sont toujours ensemble. Bon, je ne sais pas si un jour ils témoigneront aussi de leur parcours de réconciliation. Parce qu'évidemment, le pardon fait partie évidemment de. Voilà, donc je trouve ça intéressant de voir ça, de voir les choses dans une unité, vous voyez, de voir les choses dans. La vie spirituelle, c'est aussi le contact avec l'autre, vous voyez, c'est aussi. Voilà, la vie contemplative, c'est aussi le lien avec l'autre, c'est aussi voilà, de voir les choses vraiment dans une unité. Et évidemment, cette dimension de pardon, elle est importante, parce que. Cette dimension de pardon, elle permet justement de traverser l'épreuve, de dire bah, c'est pas forcément ce qu'on avait pensé au départ, notre couple n'est pas comme nous l'avions pensé, notre couple est différent et autre que nous l'avons pensé. Voilà, et d'accueillir la réalité de la main du Seigneur. Je pense que c'est cette réalité-là qui. Et maintenant, parfois, il faut se faire aider par des personnes, des professionnels, etc. Bon, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à se faire. Parce qu'il y a des moments qui sont pires, il peut y avoir des épreuves de santé, par exemple, des épreuves professionnelles. Hein, une traversée de temps de chômage, ce n'est pas simple pour un couple. L'un des deux, ben, souvent traditionnellement, l'homme reste à la maison H24, etc. Bon, on n'est ben, pas forcément très habitué, moi lui non plus. Et donc du coup, ben, voilà, il est dans cette dimension-là où la reconnaissance passe beaucoup par le travail. Donc, je suis en train de travailler sur un livre, Vie pro, vie de couple. Les impacts de la vie professionnelle selon les professions, les stades de vie professionnelle, etc. Les impacts sur la vie de couple. Ça a beaucoup d'impact. En lien avec l'argent aussi, en lien voilà, de toutes les questions liées à ça, la retraite, comment on gère tout ça. Ça forcément. Voyons les choses dans une unité. Vous voyez? Voyons les choses dans une unité. Et donc, pour revenir au pardon, je trouve que c'est intéressant de voir que ce pardon mutuel, c'est. Comment dire ça vient d'abord d'une dimension personnelle. Au fond, le pardon que j'ai d'abord reçu du Seigneur. Je pense que. De prendre conscience, c'est la parabole aussi, vous connaissez très bien, du débiteur, etc., donc qui devait X millions de pièces d'argent. Voilà, j'ai moi-même aussi besoin d'être pardonné. Et dans le temps de carême, il y a vraiment ce temps d'invitation au pardon, et puis certainement le temps de réconciliation qui est proposé par la paroisse, etc. Donc c'est important ça. À quoi est-ce qu'on voit qu'on a pardonné? Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous blesser, ou qui peuvent nous blesser dans la famille de l'autre. C'est pas forcément dans la personne de l'autre, mais dans la famille du conjoint. Vous voyez, donc, de réflexion, de comparaison, de ceci, de cela, voilà, je vois que ma famille ou ma belle-famille n'a pas été soutenante comme je l'attendais, etc., ou je n'ai pas été accueilli comme je l'attendais. De revisiter les débuts aussi du couple, c'est intéressant, qu'est-ce qui s'est vécu là. Et donc, je trouve c'est intéressant de voir que le pardon, à quoi est-ce qu'on voit qu'on a pardonné? C'est, ben, je vois deux choses. Déjà, être en paix, avoir une paix intérieure. Et puis, se réjouir du bien qui affecte l'autre et s'attrister du mal qui le touche. Voilà, c'est être dans l'empathie au fond, être à nouveau dans l'empathie l'un envers l'autre. Parce que quand il y a des blessures dans le couple, dans la famille, etc., il y a des formes de durcissement et des incompréhensions. Fait d'être dans l'empathie à nouveau va être un signe du pardon. Mais aussi, je pense que nous, comme disciples de Jésus, nous prêchons une modestie dans le pardon. Il y a des choses qui ont pu nous blesser dès le départ, dans notre histoire amoureuse, dans notre vie de couple, dans la relation aux enfants, aux belles familles, que sais-je. Voilà, bon, il y a des choses qui sont très encore sensibles. C'est normal. On n'est pas fait de bois, on n'est pas fait en pierre, etc. Donc forcément, il y a des personnes avec qui peut-être on a plus de mal, parce qu'il y a eu plus de blessures. Le fait des disciples du Seigneur, c'est vraiment, comment vous dire ça, c'est faire que les blessures peuvent devenir lumineuses. C'est ça la foi aussi. Hein? Les blessures peuvent devenir lumineuses. Jésus est ressuscité avec ses blessures. C'est très fort ça. Hein? Thomas, mets ta main dans mon cœur, les doigts dans les traces des clous, mets ta main dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. C'est très fort. Nous ne croyons pas à un ressuscité impeccable comme ça, bodybuildé, super, c'est non. Il ressuscite avec ses blessures. Et il les montre, ses blessures. Il n'a pas honte de les montrer. C'est le prophète Habacuc qui dit « Deux rayons sortent de ses mains, c'est là que se tient cachée sa puissance. » Sous ses, je dis voilà, dans ses blessures du Seigneur, qui sont devenues lumineuses par la résurrection, le Père qui l'a relevé d'entre les morts, nous invite aussi de dire ben, « En quoi nos blessures peuvent aussi porter du fruit, peuvent nous ouvrir des chemins ?» Alors, avec le temps, bien sûr, parce que c'est pas automatique, mais je trouve que c'est intéressant la question du pardon, dans le fait de durer, dans le fait de... Et puis aussi, je pense que c'est intéressant le fait de faire mémoire. De faire mémoire de ce qui vous unit, de ce qui vous a unis. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu la certitude intérieure à un moment donné que c'était lui, que c'était elle. Même si aujourd'hui, j'ai envie de le balancer par la fenêtre. Mais bon, ça arrive. Mais de faire mémoire, de dire, ok, oui, ben aujourd'hui, il m'exaspère, elle m'exaspère, voilà. Bienvenue au club, les amis, hein, donc de désespérer. Bon, mais bon, voilà, il y a des choses, voilà, des attitudes, surtout des tempéraments. Oui, les tempéraments, ça, c'est des choses qui sont importantes, les tempéraments, hein, la compatibilité des caractères, hein, de voir le tempérament de l'autre, etc. Donc, dans le discernement, je trouve que c'est très important de discerner sur le tempérament. Et je trouve que le fait, justement, d'être attentif que au fond, à travers les blessures, les exaspérations, etc., mais il y a un chemin, il y a aussi des évolutions, il y a des étapes dans la vie de couple. Et ceux qui ont plus, je veux dire, d'heures de vol que d'autres, pourraient en témoigner. Que dans la durée, il y a des choses qui se construisent. Et de faire mémoire de ce qui a été fondateur pour votre couple. Vous voyez, je pense que certains d'entre vous font des retraites, ou etc. C'est ça aussi, c'est des lieux où on apprend, où on réapprend à faire mémoire, on reprend conscience de faire mémoire, vous savez, dans la dimension chrétienne, comme dans la dimension biblique aussi, faire mémoire, c'est pas juste mémoire du passé, voilà, dans le passé, nous sommes mariés il y a 5, 10, 20 ans, non, c'est faire mémoire, c'est rendre actuelle une grâce du passé. C'est rendre actuelle une grâce du passé. C'est très fort, ça, le fait de rendre actuelle une grâce du passé. C'est vous actualiser, et c'est le rôle de... C'est, en fait, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ça. C'est faire mémoire. On fait mémoire, et c'est la présence réelle, c'est actuellement présent, hein, la présence de Jésus sur l'autel, voilà, c'est, on fait mémoire. Pour nous, la mémoire, elle est vivante, elle est présente, elle est, on rend présent la grâce du passé, donc de faire mémoire ensemble, et je vous invite à des moments aussi où vous refaites mémoire d'une relecture, c'est plutôt dans une retraite que c'est quelque chose qui est pertinent, etc., une relecture de votre vie de couple, une relecture, voilà. Je trouve que c'est vraiment, ça aide justement à durer, je ne peux pas dire, si je suis honnête avec moi-même en me regardant dans la glace, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu la conviction que c'était lui, que c'était elle. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été appelé par le Seigneur dans cette communauté. Je ne peux pas le dire. Peut-être aujourd'hui ça m'exaspère, telle femme m'exaspère. Certainement il y a des femmes qui m'exaspèrent. Mais bon, mais c'est intéressant de voir, celui qui m'exaspère, c'est peut-être celui aussi qui me fera le plus grandir. C'est intéressant de questionner comme ça. De dire, tiens, celui avec qui ça me coûte le plus, c'est peut-être aussi celui avec qui je vais faire un chemin intérieur plus fort, parce que je vais toucher un peu ma vulnérabilité aussi, et sortir d'une forme de toute puissance qui m'habite, et accueillir sa propre vulnérabilité à lui aussi. Bon, le mariage, c'est l'union de deux pauvres. Il n'y a rien à faire. Le mariage, c'est l'union de deux pauvres. Une communauté religieuse, c'est les pauvres types qui se mettent en route pour aller à la suite du Seigneur, c'est ça. C'est vraiment important qu'on prenne conscience de ça, on n'est pas des supermans, superwoman, c'est là. On est plein de creux de bosses. Mais justement, c'est une source d'espérance que de voir des personnes qui durent, parce que justement, ils sont comme les copains creux de bosses, mais ils ont frayé un chemin. Et l'autre est devenu pour lui, pour elle, un chemin. Tout ça, c'est très beau, ça, c'est de reprendre conscience de ça, justement. On ne vous demande pas d'être parfait, etc. On vous demande d'être potable, d'une certaine manière. Voilà, c'est-à-dire, voilà, c'est pas interdit d'avoir des défauts. C'est évident que oui, mais pour rendre la vie possible, pas trop... pas trop imbuvable, parce que sinon ensuite c'est complexe, mais Et surtout ne pas laisser s'établir une distance dans le cœur et dans le corps aussi, parce que dans l'intimité du couple se joue aussi le cœur à cœur. Donc voilà un peu ce dont je voulais vous parler ce soir. Et puis c'est bien aussi qu'il y ait un temps pour les questions, mais de cette traversée dans la durée, des épreuves. Et c'est intéressant les épreuves, parce que dans le mot crise, c'est à la fois côté positif, mais aussi côté négatif dans la crise. Vous voyez, on passe par des crises, la crise de la société, la crise du mariage, la crise de la famille, la crise de ceci, la crise de cela, etc. Mais on passe par des crises, on passe par des moments difficiles. Voilà. Mais cette crise-là, elle nous transforme aussi quand on la dépasse, quand on traverse l'épreuve. Moi, c'est comme un révélateur. Vous vous rappelez peut-être dans la photo argentique, hein, les moins de 40 ans, c'est ce qu'il faut dire maintenant, ou les moins, oui, ou les plus, non, c'est plutôt les plus de 40 ans ou les plus de 60 ans qui ont connu la photo argentique, où on trempait, vous savez, on imprimait sur un papier le négatif, et on trempait le négatif dans un bain qu'on appelait le révélateur. Et ensuite, il y avait le fixateur. Ah, ça c'était tout ça avec la lumière noire, c'est un noir absolu. Bon. Et je trouve l'épreuve, c'est comme un révélateur. Ça vient dire à l'extérieur de vous ce que vous portez à l'intérieur de vous. Et moi, de mon apprentissage, maintenant depuis 20 ans d'accompagnement de couple, je me dis, l'autre vient révéler des difficultés, des blessures personnelles. Ce n'est pas l'autre le problème. En quoi ça vient toucher en nous des bleus, des mots MAUX? Vous voyez, c'est donc accuser l'autre, hein, le tu qui tue. C'est complètement stérile. C'est en quoi l'autre me permet de faire un chemin, peut-être de prendre conscience. Ben, je pensais que c'était résolu, mais ça ne l'est pas. Et du coup, de me faire aussi aider, tant au plan spirituel qu'au plan aussi professionnel. Voilà, de revisiter ses blessures. Moi, je crois que les difficultés de couple, c'est d'abord des difficultés personnelles que le couple met en lumière. Voilà, et donc d'être dans cette dire, voilà, mais le Seigneur veut transformer nos blessures et les faire les rendre lumineuses, etc. Donc, je trouve c'est. Soyez plein d'espérance, de vous remettre justement face à cette lumière du Seigneur, face à la vie éternelle qui fait que, loin de nous démobiliser de cette terre, la vie éternelle, au contraire, elle nous donne une lumière qui est différente. Mettre un enfant au monde pour la vie éternelle, c'est pas pareil que de le mettre au monde pour la fausse. C'est pas du tout pareil. Alors, techniquement, c'est pareil, oui, l'accouchement, la conception, tout est pareil, oui. Mais dans le regard que vous portez sur vos enfants, quand vos regards vous portez sur votre conjoint, etc., elle est appelée à la vie éternelle. Mais c'est pas rien. Hein. Nous, c'est notre foi. Et ça redonne un souffle, ça redonne une espérance, ça. Oui. Et l'absence, évidemment, de vie spirituelle n'aide pas du tout dans la poursuite du couple, etc. Non, bien sûr, ça n'aide pas. Voilà un petit peu, mes amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, bon, ça va, c'est à peu près clair, c'est bon. Bon, vous avez peut-être des questions, c'est bien de laisser un petit temps pour les questions aussi, que je ne sois pas qu'à causer, quoi. Vous pouvez témoigner aussi, qu'est-ce qui vous aide à tenir, par exemple, qu'est-ce qui vous aide, bon, qu'est-ce qui est soutien pour vous? Oui. Oui. Il y a certains d'entre vous qui sont dans les équipes, par exemple, donc oui, d'accord, oui. Dédié au couple, ça, pour le coup, oui. Vous mettez en place, oui, c'est bien. Non, non, c'est pas évident. Non, mais le fait que ça. Non, 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 ça, je comprends complètement que ce soit pas évident. Oui, moi je crois. Pour ça, la religion de l'agenda. Nous, tous les lundis matins que Dieu fasse, réunion de communauté. Il n'y aurait pas ça, on exploserait en vol. Parce qu'on n'est pas meilleur que les copains. Donc. Réunion de communauté, et on revisite, donc il y a la question de l'organisation pratique de la communauté qui fait quoi, etc. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des choses à dire? Je vous donne un autre truc, comme frère m'a m'a partagé, parce que je remplace le supérieur pendant qu'il est en visite en Argentine, etc. Et un frère m'a laissé un message. Oui, je vais te dire qu'il y a des frères qui viennent après le petit déjeuner, mais ils servent du café nouveau de la journée, voilà, qui était fait, qui vient d'être coulé, avant le petit déjeuner. Ce qui fait que, on est 19, hein, donc quand on arrive au petit déjeuner, si on arrive après l'office, etc., on n'a plus que le vieux café, quoi. Voilà, ça c'est nos difficultés. Vous voyez. C'est pas sur la Trinité bienheureuse ou quoi qu'est-ce. Je veux dire, c'est nos difficultés, c'est ça. Donc j'ai eu un message au moins 20 minutes du frère qui m'a dit, voilà, il faut faire quelque chose. Et j'ai repéré, il y a quatre frères en particulier, j'ai particulièrement repéré Kikribashi, etc., et qui pourraient quand même prendre le café qui est au-dessus, au-dessus et en dessous. Voilà. Bon, on va en parler. Que je vous dis, ben c'est oui, parce que c'est l'égoïsme aussi fait partie de nous. Hein, et donc, sûr, si vous arrivez, vous avez le café, vous avez le café qui vient de couler, mais forcément plus agréable que le café de la veille. Évident. Allez-y.
Si jamais vous pouviez me donner une petite idée, par exemple, pour les deux dernières semaines de carême, est-ce que, par exemple, il y aurait une ou deux petites idées d'efforts,
Oui. Alors, je vais vous dire ce que nous, on a mis en place. On s'est dit d'intensifier la relation de service mutuel. Parce que c'est vrai, bon, on a une moyenne d'âge à peu près de 55-60 ans, etc. Donc chacun, donc on fait, est-ce qu'il y a des frères qui n'ont pas le permis, donc ils ont des consultations médicales, donc il faut prendre sa voiture pour conduire le frère, etc. Du coup, grosso modo, vous explosez votre matinée parce que le frère, hein, pour moi, plus c'est toujours tard, etc. Bref. Mais voilà, vous perdez en une matinée entre vous et l'après-midi, que vous auriez utilisé pour autre chose, le service. Moi, je pense que c'est important le service. D'être serviteurs les uns des autres. Hein, nous, on porte le bon nom de serviteur de Jésus et de Marie, mais c'est pas pour ça qu'on a l'exclusivité du service. Parce qu'on se tope aussi avec notre manque de bon, et j'allais dire le quotidien. Ne cherchez pas les choses extraordinaires, les amis. Le quotidien offre alors, il faut savoir mettre le curseur, etc. Ensuite, c'est en couple que vous discernez, parce qu'il y a des appels qui vous sont lancés. Mais je pense du service du quotidien, je ne parle pas des notions d'engagement, mais du quotidien. Et aussi de transmettre ça aussi dans votre famille. La dimension de service. Qui est tellement. On voit, il y a beaucoup de repli sur soi dans notre société, beaucoup de. Peu d'être au service d'eux. Il y en a. En même temps, c'est bien quand c'est le cas, parce qu'il y a aussi des très belles expériences dans notre société, en dehors de l'Église, heureusement, d'attitude de serviabilité, d'attitude d'empathie des enfants envers les autres. Il y a des choses très très belles. Mais voilà, on sent aussi qu'il y a un individualisme qui est ambiant, quoi, donc, et qui aussi nous touche. Vous voyez, qui nous touche aussi. Donc, moi, c'est ça qui me vient. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est le service. Je vous dis, tiens, ça peut être un point concret d'effort, comme on dit dans les équipes Notre-Dame, un point concret d'effort. Voilà. C'est sortir soi-même, c'est se déplacer intérieurement.
Dans les préparations au mariage des couples classiques d'aujourd'hui, avec X années de vie commune et un, deux, voire plus d'enfants, comment est-ce qu'on peut intégrer dans une préparation assez courte le discernement entre les sacrements?
Alors, plus ou moins le discernement dont je parle, c'est face à l'autre. Est-ce que c'est la bonne personne? Donc c'est qui est quand même central. Maintenant, ce que vous pouvez faire, moi je me dis, bon. C'est la réalité de nos sociétés, très bien. Relecture de votre vie. Du coup, vous avez des heures de vol. Vous avez deux, trois enfants. Donc, a priori, vous n'avez pas fait que prier le chapelet. Donc, vous avez été en vie commune depuis 5-10 ans. C'est pour ça qu'il faut que les préparateurs ne soient pas trop jeunes. parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit plus, moins de vie commune que les futurs fiancés. Donc, ça serait un peu. Mais ça peut arriver, donc il faut pas, il faut un peu des gens un peu expérimentés. Moi, ce que je trouve, c'est au moins la question de la relecture. Et alors, c'est là, parfois, ça dépend aussi du niveau des personnes, des facilités de prendre la parole, et puis il y a des personnes qui ont des capacités à dire. Mais il y a de dire, voilà, on peut vérifier. C'est une question que j'espère vous poser. Est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à la fidélité pendant ces 5-10 ans? Est-ce que vous posez la question? Parce que c'est un pilier. On ne peut pas ne pas la poser. On ne peut pas ne pas la poser. Ça, faut poser. Vous êtes légitime pour poser toutes les questions. Non, les gens vont répondre ou non. Mais c'est pas les questions. Aucune des questions n'est idiote. Je pense que cette question-là, par exemple, ça me paraît capital. Mais capital, je veux dire, si déjà là, il y a eu des coups de canif au contrat, mais au secours, je veux dire, il y a un problème, quoi. En tout cas, comme le conçoit l'Église. La société, on parle de polyamour, etc., d'aimer bon, très bien, mais bon. Rendez-vous, on va voir si est-ce que ça rend heureux vraiment. Je veux dire, pour nous, la logique de don et d'un don pour toujours, c'est notre logiciel et on voit que ça porte des fruits. Si vous frappez à la porte de l'église, etc. Mais du coup, voilà, vous l'avez bon, très bien. Bon, ensuite, bon, pense ça, la question de la fidélité, puis la question de comment s'est passée la vie commune, vos rapports aux familles, reprendre du temps. Alors ça prend du temps. Moi, je prends beaucoup de temps avec eux. Maintenant, je comprends que. Nos forces vont diminuant partout, ça, c'est, j'entends bien ça, j'entends complètement ça. Mais de les interroger, quoi. Qu'est-ce qui a été source de bonheur, par exemple, dans votre vie commune? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui est encore difficile à vivre? Parce que maintenant tout est facile. Non, c'est pas vrai. Arrêtez de mentir, tout n'est pas facile. Je trouve un peu poussé, et je trouve les jeunes acceptent qu'on les pousse dans leur retranchement. Les jeunes ou moins jeunes, parce qu'ils ne font pas 6 ans. Bon, mais. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se marie de plus en plus tard. Ceux que j'accompagne, c'est plutôt autour de la trentaine, vous voyez. Du coup, ils ont déjà une vie professionnelle, ils ont déjà une psychologie qui est déjà établie, qui est déjà, voilà, un caractère qui est là. Alors, du coup, on peut travailler, parce que justement, c'est pas, ils n'ont pas 18 ans, quoi. Ou en plein moment, il y a un caractère qui est là, il y a une personnalité, il y a une vie, un parcours professionnel, il y a eu d'autres histoires avant, il y a eu qui n'ont pas abouti. Bon, il faut prendre du temps pour la relecture de. On est les seuls quand même à proposer une préparation au mariage, je veux dire, c'est pas rien.
Rebondir sur la relecture, je trouve ça très intéressant ce que vous dites sur la relecture. Nos enfants nous obligent aussi à relecture. Ah oui. Parce que moi, j'ai une vie professionnelle, je suis une femme qui travaille, donc pas forcément à 50 ans, mais à l'an, avec mon voyage, je me marie aussi. Et les choses à laquelle j'ai toujours été particulièrement attachée, et je vous ressens, c'est d'avoir un repas familial le soir impératif, avec des discussions avec les enfants. Et plus ils grandissent, plus
c'est nécessaire.
Et du coup, ils nous obligent à parler de nos vies, et ça peut entraîner une
réflexion. Très bien.
Et j'entendais à la radio, parfois, le problème des familles qui, avec l'activisme ambiant, fait que ce repas familial du soir se disparaissait en fait.
Oui, oui.
Et j'ai même moi une sœur qui ne le faisait carrément plus. Parce que tout le temps, il y avait un repas en vacances, un repas par jour en famille.
Oui.
Mais pas forcément tous les repas en vacances quand on est en famille.
Oui.
Bon, mais en semaine,
en semaine,
quand on travaille et qu'il y a les enfants, moi je me suis toujours battue et je me bats toujours pour arriver.
Très bien. Un repas, voilà. Ben voilà, ça c'est votre. Ça, très voilà. Bien. Donnez-vous des rituels.
Et c'est ça aussi.
Et bien sûr, c'est ça. C'est le fait que vous battiez. Fait qu'aussi que on dit, tiens, c'est ce que demande maman, ouais, ça ne dit rien, elle revient, elle nous saoule avec ça, etc. Bon, mais ça veut dire que c'est important. Ça percute, parce que ça veut dire, le lien.
Ils ont souffert, excusez-moi, oui. Quand ils étaient plus jeunes, ils étaient avec les nounous, et je rentrais bien souvent
oui,
après le fameux
oui,
repas.
Oui.
Et bon, on était jeunes, vous allez me dire.
Mais
c'était un manque pour eux,
c'est sûr. C'est sûr. Alors, maintenant, voilà, je pense que c'est très bien. La question de la place des téléphones portables aussi. Est-ce qu'il y avait, pour nous, par exemple, est-ce que vous êtes beaucoup, il y a un ou l'autre qui est beaucoup dans son portable ? On va faire la guerre, j'ai envie de vous rappeler, on a une récréation communautaire une fois par semaine, pas de téléphone. On l'a décidé en communauté, les adultes, etc. Voilà. Ben, j'ai dit, quand tu rappelais hier la réunion de communauté, j'ai dit, mais il semble bien qu'on avait décidé pas de téléphone. Or, hier, j'en ai vu trois avec 100 ans leur téléphone, les consultant allègrement pour la récréation. La récréation, c'est un temps où on se recrée, justement, c'est ça. On est tous ensemble, on parle, on échange sur le week-end, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, les nouvelles. Il faut batailler. Pas de téléphone à table. Nous, on n'a pas de téléphone à table. Mais il faut batailler. ça, je trouve, c'est un vrai combat, ça.
Oui.
Ça, la question du téléphone, parce que c'est pas. D'autant plus si vous avez un seul téléphone pour une personne. Du coup, vous avez les deux puces de truc. Bon, ça, c'est vraiment. C'est chaud, ça. C'est chaud parce que le fait d'arrêter, par exemple, souvent, la question du repos. On arrête, on vient en retraite, mais c'est pas le repos, c'est pas que les retraites. Il y a un repos aussi quotidien, il y a un repos hebdomadaire, etc. C'est de couper, où est-ce que vous en êtes, de comme on dit maintenant, le droit à la déconnexion. C'est important au niveau professionnel. Parce qu'en fait, on voit des personnes qui sont restées X années ensemble, arrive la retraite, par exemple, ils n'ont plus rien à se dire. Parce que c'était les enfants, le travail, sur des lignes parallèles, hop, arrive la retraite. Mais il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de travail. Bye bye, quoi. Si on n'a pas veillé à ce que vous dites, et c'est très important, de garder le lien, qu'est-ce qu'on met en place pour prendre soin du lien ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Ce n'est pas spontané, le lien. C'est les forces centrifuges qui sont spontanées.
Moi, j'ai une question sur le discernement. Pour un couple qui n'a pas eu la chance de discerner dans les premières années, qui se sont assez vite engagés dans le mariage, et qui assez longtemps après, se retrouve dans des difficultés.
À traverser l'épreuve. Ces difficultés, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans les difficultés. Mais en quoi c'est des difficultés personnelles ? En quoi ça peut être révélateur ? Déjà parce qu'ils sont engagés en pensant à une sorte de mythe fondateur de leur couple, que tout on est pareil, nos familles sont pareilles, etc. On coche toutes les cases, etc. Avec le danger de ça, etc. On pense que tout va aller tout seul. Et on voit bien que ça ne va pas tout seul à un moment donné, un certain nombre d'années. Parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Déjà de mettre... l'accent sur qu'est-ce qui blesse la relation. Et puis, est-ce que je veux battre pour mon couple ? Est-ce que je veux me battre pour mon couple ? C'est-à-dire, parce qu'à un moment donné, il va falloir se battre. Je vois encore un garçon que, au téléphone, etc., sa femme comme ça l'a quitté pour un autre, etc., pris ses affaires, mais pas un échange, rien, aucune parole, rien. Ni on va voir un thérapeute, ni on va voir quelque chose, on va essayer de se retourner vers le prêtre qui nous a préparé au mariage, on va essayer de... Voilà, c'est difficile aujourd'hui pour X raisons, et c'est souvent les deux, mais bon, je pense que c'est... Voilà, c'est sûr que le couple aussi qui est venu vers moi est en grande crise... Pourtant, voilà, ils ont redécouvert la foi, etc. Mais bon, la foi ne fait pas tout, quoi. Donc, il y a le côté humain, c'est une réalité humaine, le couple, avant d'être une réalité spirituelle. Alors, du coup, je leur ai conseillé, voilà, mais... voilà, ils sont au bout de 10 ans, deux enfants, bon, voilà, bon... mais je ne t'aime plus, machin, c'est un truc classique. Alors lui, ça vous voyez qu'il était trop, c'est un reproche, c'était juste, mais trop dans son travail, en plus un travail dans les forces de l'ordre, etc. Donc du coup, il y a des dimensions de fraternité qui est très forte, parce que bon, surtout ce que vivent les forces de l'ordre en ce moment, voilà. Donc il y a le côté collègue, l'union entre collègues est très important pour soutenir, parce que bon, les forces de l'ordre, c'est pas, on voit que les difficultés, que les misères du monde, quoi. Et voilà, mais il était trop là-dedans, il me dit, bah, si tu veux, je change de travail. Et bon. Mais on sent bien qu'il n'y a pas eu de. Il y a aussi une question de maturité de la personne. La personne, elle est beaucoup dans l'attente de s'être comblée par l'autre. Et donc. Et de blessures aussi. Il y avait des choses qu'ils m'ont racontées de leur couple. Voilà, pendant leur fiançailles, elle pétait des plombs. Elle claquait la porte en partant. J'avais des trucs comme ça. Je dis, mais pourquoi toi, t'es pas parti? Ah ben je l'aime, mais maintenant il faut se donner la réponse. Il y avait déjà des choses, c'est ça. Moi, mon truc de discernement, c'est qu'il y avait déjà des choses, des warnings qui étaient allumés. Pour ça, j'écris aux témoins. Quand on a préparé son mariage. J'écris aux témoins et je leur pose des questions. Précisément, je veux dire, ne venez pas me dire, ah ben oui, machin, etc. Donc, non, si vous avez vu des choses. Vous êtes obligé, et on peut mettre, et ça m'est arrivé, encore pas si longtemps, des réserves dans le dossier. Ou n'importe qui d'entre vous peut mettre des réserves dans le dossier, pas besoin d'être prêtre. Voilà, quelqu'un qui a vu un dysfonctionnement, etc. Alors si c'est grave, bon, mais en tout cas, c'est singulièrement, c'est au curé où se célèbre, on parle au curé où se célèbre le sacrement, parce que c'est lui qui est in fine celui qui tient les registres. Et donc c'est dans le dossier, dans ce dossier-là, en vue du mariage, qu'on met qui, entre guillemets, aide en cas de séparation et de déclaration de nullité, le procès en déclaration de nullité. Bon. Parce que vous voyez, le problème c'est quand c'est un peu c'est le père Sonnet, Denis Sonnet, si on dit quelque chose, le père Denis Sonnet, etc. Qui a aussi beaucoup donné pour le couple, etc. Et c'est un peu comme le téléphérique. Les premières années, ça monte tout seul. Et puis ensuite, il faut sortir les crampons, il faut les piolets, etc. Alors on change de téléphérique. Les premières années, ça monte tout seul. On va faire combien? C'est ça la question. On va en faire combien de téléphérique? Je trouve l'image, elle est très pertinente, parce que c'est vrai qu'au début, ça marche. Puis ensuite, il faut s'accrocher. Mais comme on est dans une société de consommation, de zapping, de ça n'aide pas, ça n'aide pas. Donc, et puis, faut être deux pour se battre pour son couple. Là, je vous parlais du couple où il y avait la fidélité, etc. Les deux étaient d'accord pour se battre, pour dire, non, on va pas. Pour nous, le divorce n'est pas une option. On a quatre enfants, etc. Ça, c'est juste pas question. On va se battre. Et les deux ont voulu se battre. Mais ils y sont arrivés. On peut s'en sortir aussi, je pense, et donner une espérance.